Bon, bonsoir à tous. Nous allons donc démarrer ces tables rondes sur les compléments alimentaires immédiatement, avec déjà pour commencer Nadine Blatt, qui est enseignante à l'ESC, puisque cette soirée s'appuie sur un partenariat entre la mission agrobiosciences et l'école supérieure de commerce, comme chaque année, où nous disons que nous prolongeons par le débat un travail bibliographique et d'entretien qui est mené par des étudiantes. Donc elles vont vous présenter en quelques minutes le travail qui a été réalisé sur les compléments alimentaires, leurs conclusions, des questions que ça soulève, et ensuite nous enchaînerons par le débat. Merci Nadine, à toi.
Bonsoir à tous. Donc très rapidement, pour resituer l'action des étudiantes, le groupe ESC propose des formations spécialisées en santé, donc un master spécialisé en management des structures sanitaires et sociales et un master spécialisé en management des industries de santé. Depuis 2008, le groupe ESC a lancé également un groupe de recherche « Organisation et systèmes de santé » qui travaille en étroite collaboration avec des partenaires régionaux. Donc, c'était le cas dans le cadre de l'opération avec la mission Agrobiosciences. Également nationaux et internationaux, dans le but de mener des réflexions communes et des recherches autour de sujets novateurs liés au secteur de la santé. Donc la conférence de ce soir, les compléments alimentaires bénéficient inutiles ou toxiques, s'inscrit pleinement dans cette finalité. Je vais donc céder la parole à Laurane, Selma et Céline.
Comme bonsoir mesdames et messieurs. Je suis Salma Esseguir, une des quatre étudiantes qui ont établi le dossier de recherche qui sert aujourd'hui à préparer ces tables rondes. Donc, nous sommes intéressés au sujet des compléments alimentaires parce que nous avions vu que la consommation de ceux-ci se banalise de plus en plus. Donc, je disais que leur consommation se banalise de plus en plus. Il y a de plus en plus de consommateurs. Le marché est en pleine croissance depuis plusieurs années. Ces éléments de supplémentation sont perçus par les consommateurs comme des moyens de pallier une alimentation moderne que l'on trouve de plus en plus carencée pour prévenir certaines maladies ou tout simplement pour apporter un confort et un bien-être au quotidien. Nous avons vu ces dernières années une multiplication de ces produits avec une offre aussi large que complexe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2002, le marché des compléments alimentaires jouissait d'un cadre législatif permissif et donc on a vu une multiplication des produits, une multiplication des allégations. Les allégations sont les promesses qui sont avancées par les compléments alimentaires et donc cela a mené à plusieurs dérives en termes d'information notamment du consommateur qui s'est trouvé plusieurs fois trompé. Et donc pour pallier à ceci, les autorités européennes ont établi un cadre législatif qui était plus restrictif afin de réguler les pratiques du marché du complément alimentaire au niveau de l'Europe, mais aussi et surtout de renforcer la sécurité et l'information du consommateur. Un des points importants de cette législation est que les fabricants doivent désormais prouver les allégations qu'ils avancent pour les compléments alimentaires et donc faire des études cliniques et déposer les dossiers au niveau des autorités avant de commercialiser leurs produits. En 2007, en France, une dérogation de 3 ans a été accordée aux fabricants pour déposer ces dossiers d'études cliniques et donc ce qui a repoussé la date limite du dépôt au 31 janvier 2010. Alors c'est une date qui a changé depuis au cours de notre étude pour plusieurs raisons. En parallèle, les autorités françaises ont établi un dispositif national de vigilance qui est le plan de nutrivigilance et qui a pour but essentiel d'identifier les effets secondaires, les interactions qui peuvent être liées à la consommation de ces compléments alimentaires et donc vraiment de récolter toutes les déclarations des consommateurs auprès des professionnels de santé, que ce soit des médecins ou des pharmaciens. Donc toutes ces dispositions constituent une première étape afin de répondre au problème de la sécurité du consommateur. Mais pour être maîtrisé, ce problème devra être attaqué sur un deuxième front qui est l'information du consommateur. Et donc tout au long Tout au long de notre dossier de recherche, nous avons tenté de répondre à la question de recherche « Comment l'information liée aux compléments alimentaires pouvait-elle avoir un rôle dans la sécurité du consommateur, dans l'amélioration de la sécurité du consommateur ?»
Alors, du coup, on va passer à la méthode de notre dossier pour en arriver directement aux principales conclusions de ce dossier. Donc, les consommateurs ont souligné leur réelle difficulté pour trouver une information qui soit fiable. Ils nous ont fait part, la plupart du temps, du fait qu'ils jugeaient les informations sur les compléments alimentaires non objectives, voire même mensongères. Donc, il est nécessaire pour eux de recouper les sources pour pouvoir arriver au final à un renseignement crédible. En termes de médias employés, eh bien, Internet est le plus utilisé. Il est bien sûr apprécié pour sa rapidité de réponse. Et par contre, il complexifie les recherches, étant donné qu'on peut y trouver une multitude d'informations. Le bouche à oreille est très influent, puisque les gens se fient généralement aux témoignages de leurs proches. Les presses féminines et santé sont considérées comme étant assez crédibles. En revanche, les pharmaciens et les médecins généralistes ne sont pas estimés suffisamment compétents dans le domaine des compléments alimentaires. Donc, pour obtenir des conseils, les gens préfèrent se tourner vers d'autres spécialistes, comme les phytothérapeutes, diététiciens ou homéopathes. Les personnes que nous avons interrogées ont de plus souligné un manque d'informations qui leur permettrait de mieux consommer. En termes de forme, ça pourrait se traduire par un support de référence, donc ça peut être un site internet, ça peut être un magazine, mais qui serait reconnu et contrôlé par une autorité compétente. Et en termes de fond, eh bien, ce serait plutôt des informations sur les propriétés intrinsèques des produits, donc sur les ingrédients, tout ce qui est traçabilité, contre-indications, les interactions avec d'autres molécules, et puis bien sûr, le plus important, des preuves d'efficacité. Donc, en fait, il y a une bonne image générale des compléments alimentaires, mais elle est quelque peu ternie par le fait qu'il y a une méfiance vis-à-vis des promesses avancées, et il y a également une difficulté à évaluer leur efficacité réelle. Donc, ce dont les consommateurs ont besoin aujourd'hui, c'est d'une information générale qui soit scientifique, mais vulgarisée pour pouvoir leur être accessible. Et notre étude a également soulevé la nécessité d'éduquer et d'autonomiser les consommateurs pour qu'ils puissent devenir acteurs de leur propre sécurité. Et selon nous, c'est une approche qui est complémentaire de la réglementation. Donc, un des risques de cette réglementation qui se fait plus restrictive est de voir un effet pervers et de voir les gens se tourner vers des commerces parallèles, donc par exemple Internet, où l'on peut trouver de tout. Et les dérives que nous avons identifiées sont l'embrigadement et l'autonomie. Donc, pour faire vite, l'embrigadement, eh bien, la personne va suivre, va écouter et se fier à une personne uniquement et n'acheter ses compléments alimentaires qu'à cette personne. Pour l'autonomie, eh bien, elle va chercher, par exemple, à produire elle-même les substances qu'elle veut consommer, ce qui peut se faire plus particulièrement dans le cas des plantes. Et pour les craintes, et là je m'adresse donc plus particulièrement à nos experts ce soir, je vais vous parler des craintes et des questions que les consommateurs se posent et auxquelles j'espère vous allez pouvoir apporter des éléments de réponse. D'abord, y a-t-il un lobbying des Big Pharma ? Alors, c'est une question un petit peu délicate, évidemment. Mais puisque, comme Salma vous l'a dit, il faut désormais des dossiers cliniques pour pouvoir prétendre à des allégations, les consommateurs estiment que ça favorise les grosses sociétés qui ont les moyens de faire ces dossiers. Donc, il y aurait un lobbying des Big Pharma. Seconde crainte, se dirige-t-on vers des produits qui seraient inoffensifs, bien sûr, mais qui seraient devenus à ce moment-là inefficaces ? Puisque à vouloir surprotéger le consommateur, on dilue de plus en plus les constituants, les principes actifs, ce qui fait qu'au final, on aura effectivement supprimé tout danger, mais si je cite un consommateur, le complément vraiment actif aura complètement disparu. La troisième crainte est le risque de perdre un savoir empirique sur les plantes notamment, puisque comme vous le savez, nous utilisons des plantes et d'autres substances depuis des centaines d'années, donc l'humanité dispose d'un savoir sur ces plantes, Et les consommateurs redoutent qu'à force de restrictions et de réglementations, on soit, je cite encore une fois, en train de tuer ces informations. Et enfin, le dernier point que je soulèverai ce soir avant de passer la parole à nos intervenants, est-ce qu'on se dirige vers un assistanat de plus en plus prononcé de la population aux dépens de son éducation ? Et sur ce point, les propos des personnes que nous avons interrogées étant très parlants, j'aimerais bien en citer deux. Le premier estime qu'en effet, il faut protéger le consommateur, mais en fait, ce qui est important, c'est que le consommateur soit conscient de ce qu'il prend. Et la seconde réaction était un petit peu plus épidermique, à savoir, on vise à faire des gens des assistés, des esclaves, des bons consommateurs, mais pas des gens qui pensent, qui réfléchissent. Donc les consommateurs redoutent de passer à côté d'une certaine instruction. Voilà donc les craintes que nous avons recensées, les questions qu'ils se posent. À présent, je vais passer la parole à Sylvie Berthier et Valérie Péan qui vont animer les débats. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci.
Merci beaucoup. Je vais remercier et féliciter les étudiantes de l'ESC pour le travail qu'elles ont réalisé. Évidemment, c'est un dossier, elles auraient pu en parler 3 heures, je me doute bien, il est téléchargeable sur notre site. Donc nous allons attaquer tout de suite la première table ronde qui est consacrée à la question de la consommation. Avec un petit souci, c'est que vous savez qu'il neige au nord de la Garonne. Donc Thomas Pilorin est resté bloqué à Paris. Il est resté 4 heures à Orly. Il a essayé de prendre un avion désespérément. Il ne peut pas. Donc, de toute façon, vous avez tous récupéré à l'accueil le gros rapport INCA, l'étude individuelle de consommation, dans laquelle il y a tous les chiffres. Il nous aurait permis d'y voir plus clair, plus rapidement, mais enfin, c'est pas grave. Valérie va nous faire une synthèse rapide de l'essentiel des chiffres à retenir. Et ensuite, avec Geneviève Casvalette, j'essaierai de voir un peu quels sont les ressorts anthropologiques et peut-être marketing de la consommation des compléments alimentaires. Et nous enchaînerons avec nos amis scientifiques avant de vous laisser la parole pour un débat.
Bien, on va peut-être commencer tout bêtement par la définition des compléments alimentaires. Donc une définition qui a été donnée par la Commission européenne en 2002. Donc ce sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter un régime normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seules ou combinées, commercialisées sous forme de doses, c'est-à-dire gélules, comprimés, pastilles, ampoules, sachets, etc. Alors ensuite, quelques chiffres quand même pour mieux situer les enjeux, puisque là on va parler des consommateurs et du marché. Le marché mondial des compléments alimentaires pèse à peu près 45 milliards d'euros, sachant que plus d'un tiers, c'est-à-dire 37% exactement, est produit par les États-Unis. Le reste se répartit entre l'Europe, à hauteur de 30% à peu près, et l'Asie, sachant que c'est principalement le Japon qui l'emporte en Asie. Pour l'Europe, la France se situe en 4e position, derrière l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et donc pour en venir en France, c'est un marché à peu près de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Monsieur de Synadiète me corrigera si les chiffres sont faux. Avec cependant un retournement de tendance qui a été souligné un peu partout et qui a été constaté à partir de 2008. C'est-à-dire que jusque-là, on avait connu ces dernières années une croissance à 2 chiffres et en 2008, une baisse pour la première fois. Mais enfin, apparemment, les augures paraissent bonnes pour les années 2011-2012. Quant à la consommation, on le verra, un Français sur deux a déjà pris un complément alimentaire. Donc à peu près la moitié d'entre vous, même plus, puisque je vois qu'il y a une majorité de femmes. Alors, Thomas Pilorin, effectivement, devait faire le point sur cette étude INCA, qui est une grosse étude qui a été menée pendant plusieurs années. Alors, elle s'appelle INCA 2 parce que la première avait été réalisée en 99, mais c'est la première qui aborde un chapitre sur les compléments alimentaires. Concernant les grandes conclusions, sachant que vous avez donc à partir de la page 140 et quelques ce chapitre, qui consomme des compléments alimentaires? Alors un enfant sur 10, un adulte sur 5 dans l'année qui a précédé l'étude, la participation à l'étude. Ce qu'on voit très nettement, c'est une corrélation entre le niveau d'études et la consommation de compléments alimentaires. Et on verra que nous, ça nous pose pas mal de questions.
Une corrélation dans le sens où plus on a fait
plus le niveau d'études est élevé, plus on consomme de compléments alimentaires. D'autre part, autre fait marquant, chez les adultes, la prise de compléments alimentaires est énormément corrélée au sexe. Évidemment, ce sont les femmes, enfin je dis évidemment... On verra là aussi peut-être quelques raisons. Ce sont les femmes qui très majoritairement prennent des compléments alimentaires. Elles sont 2 fois plus nombreuses que les hommes. Chez les enfants, par contre, la consommation est similaire entre les garçons et les filles. Je pense que ce sont les mamans qui complémentent. C'est peut-être une des clés. Ensuite, concernant la saisonnalité et la géographie, on constate qu'il y a des disparités régionales de consommation. Et on voit notamment, enfin surtout chez les femmes, que la consommation est plus élevée dans l'Est et le Sud de la France. Alors là encore, on trouve ça, nous, un peu paradoxal. Pour le Sud, en tout cas, on nous a toujours rabâché que le Sud-Ouest, notamment, était le bien mangé. Donc, est-ce que c'est corrélé au bien mangé, peut-être ? Chez les enfants, on remarque aussi une consommation plus forte dans le Sud par rapport au Nord. La durée annuelle de la prise... D'accord. Excusez-moi, j'improvise un peu parce que comme on a appris il y a très peu de temps que Thomas Pilorin n'était pas là, il a fallu le remplacer au pied levé. Tout ça, il devait le dire lui-même. La prise d'un complément alimentaire est en moyenne de 4 mois chez les adultes, 2 mois et demi chez les enfants. Et surtout, on voit qu'il y a une consommation au long cours qui s'effectue à travers des cures. Ça, c'est très important. 23% des enfants consommateurs de compléments en prennent toute l'année, ce qui est quand même énorme. Et puis, dernier point sur les chiffres, où est-ce qu'on achète et par qui on achète des compléments alimentaires? Alors là, c'est pas tout à fait les mêmes résultats que l'enquête des filles de Subdeco. La prise de compléments est généralement motivée par une prescription médicale ou le conseil d'un professionnel de santé. Autrement, c'est sur le conseil d'un proche et puis la découverte du produit sur un linéaire ou sur Internet, mais que pour 15%. Donc c'est pas tout à fait les mêmes taux. Enfin, la majorité des achats, selon l'étude INCA, se fait en pharmacie. Surtout pour les enfants, c'est à 78% en pharmacie. Et chez les adultes, une part non négligeable des achats s'opère au supermarché, 14%. Alors je pense que, sans doute, enfin, on verra si ça dépend de la réglementation, mais ça risque d'augmenter dans les années à venir. Et puis en magasin diététique pour 9%. Donc voilà pour les principaux chiffres. Et donc je vais laisser Sylvie poursuivre avec Geneviève Casvalette pour avoir quelques clés d'explication sur cette prise de compléments alimentaires qui grimpe ces dernières années.
Oui. Donc on a invité Geneviève Casvalette à double titre parce qu'elle est professeure de marketing à l'ESC et qu'évidemment la question du marketing n'est pas neutre dans cette question des compléments alimentaires, mais aussi parce qu'elle est docteur en anthropologie sociale. Donc elle va peut-être pouvoir nous donner des clés de notre relation à l'alimentation aujourd'hui. En tout cas, la première question que j'aimerais lui poser de manière peut-être plus générale que la prise des compléments alimentaires, est-ce que tu n'as pas l'impression, Geneviève, qu'aujourd'hui, notre relation à l'alimentation se médicalise de plus en plus et comment est-ce que tu expliques ce phénomène? Alors, je sais bien que tu n'es pas forcément une spécialiste, mais tu as bien quelques éléments de réponse.
Alors oui, notre relation à la nourriture se médicalise, je dirais même de manière inquiétante. Puisque pour la première fois le Crédoc a décelé, quand on étudie le rapport des gens à l'alimentation et qu'on les interroge sur ce que représente pour eux le fait de manger, pour la première fois en 2008 on s'est aperçu qu'il y avait quand même 10% de la population française pour qui manger devenait un problème et un problème de santé. Donc effectivement je pense que derrière des intentions tout à fait louables hein, avec le PNNS, on en arrive à faire oublier aux gens que manger, ça n'est pas que prendre du carburant sous forme de nutriments.
Le PNNS, faut peut-être préciser que c'est le plan national.
PNNS, voilà. Plan national nutrition et santé. Donc on en est au PNNS 2. Et donc l'État a voulu prendre en charge de manière à bras-le-corps la santé publique. Mais du coup, il a peut-être réussi sur certains points. Un cas le prouve, ça a l'air d'aller relativement bien finalement dans l'amélioration de la nourriture des gens. Mais il a réussi aussi à affoler pas mal de gens, à faire peur aux gens et à leur faire, pour certains encore une fois, c'est pas général, mais à leur faire quand même regarder leur assiette avec beaucoup plus de suspicion. Et moi, j'ai peur que ce ne soit pas très bon.
D'accord.
J'ai peur qu'on oublie que nourrir, ça a une fonction sociale, ça a une fonction de convivialité, ça a une fonction de transmission et pas seulement de carburant.
On note quand même dans les discours des politiques publiques peut-être un petit renversement maintenant de discours avec la notion de plaisir qui revient un peu plus au centre du discours. Je crois que Ça, c'est peut-être en train de s'inverser un petit peu, mais peut-être que le mal est déjà fait.
Oh, c'est pas, enfin, ça peut se renverser, mais effectivement, ils reviennent un peu, ils se rendent compte qu'ils ont poussé le balancier un petit peu trop dans le sens de la médicalisation, et qu'il faudrait reparler de
plaisir. C'était au sortir de des crises sanitaires comme la vache folle, c'était avec la montée de l'obésité, c'était le contexte. Pour en revenir un peu plus spécifiquement aux compléments alimentaires, donc Valérie l'a dit, ce sont les femmes les principales consommatrices et certainement les prescripteurs des enfants. Alors j'imagine qu'il y a plusieurs raisons à cela, à ton avis. Ce sont épisodes biologiques,
Je pense que la femme est dans une fonction depuis des millénaires de nourrir sa famille. Elle a pris cette fonction à cœur. Et on s'aperçoit maintenant, ça a été d'ailleurs étudié par exemple en Suède, qu'on lui colle en plus sur le dos le rôle de diététicienne, nutritionniste, familiale. Donc même si elle arrive à partager les rôles de cuisine avec son compagnon éventuel, par contre pour la nutrition, on lui colle ce rôle sur le dos, et du coup elle le prend très à cœur évidemment, puisqu'elle se sent responsable. Donc je pense que c'est pas étonnant que les femmes soient plus préoccupées de ce genre de choses. Je pense aussi que derrière les compléments alimentaires, il y a une préoccupation santé, mais aussi une préoccupation beauté. Et les injonctions normatives sur la beauté pèsent certes désormais aussi sur les hommes, mais quand même beaucoup plus lourd sur les femmes.
Mais on le voit avec la question des cosmétiques, par exemple, c'est un marché qui est en train d'être conquis par les hommes. Est-ce que tu penses qu'à terme le marché des compléments alimentaires sera aussi il y aura une parité comme pour faire la cuisine et les courses et le ménage?
Ça viendra peut-être. Les cosmétiques pour hommes, on en parle beaucoup, mais enfin ça décolle pas des masses quand même, hein, soyons honnêtes. C'est pas encore un gros boom, les cosmétiques masculins. Donc les hommes adopteront peut-être aussi les compléments alimentaires, ils en consomment déjà apparemment, peut-être sur injonction de leur compagne, mais effectivement moi je pense que c'est un phénomène beaucoup plus féminin, la préoccupation santé et la perméabilité à ces injonctions santé.
On a vu avec l'INCA 2 que ça nous a surpris avec Valérie, que plus le niveau d'études est élevé, plus on consomme de compléments alimentaires. On a trouvé ça un peu étonnant, un peu paradoxal. Comment toi tu l'expliques? C'est une question en fait de moyens financiers, parce que peut-être plus on fait d'études, plus on a d'argent. Ou est-ce que c'est ce phénomène bobo qui arrive en force?
Je ne crois pas que ce soit bobo. Je crois effectivement il doit y avoir un lien avec tout simplement le revenu, mais on s'aperçoit que la préoccupation santé en général, et pas que les compléments alimentaires, est très très liée au niveau de revenu. Si tu regardes les courbes, par exemple, d'obésité, il y a une prévalence énorme, si j'ose dire, d'obésité dans les classes populaires, et une très forte proportion de gens minces, voire maigres, dans les classes sociales élevées. Donc là, les enjeux, est-ce qu'ils sont purement de santé ou aussi d'esthétique? C'est toujours très, très mélangé. Et donc la préoccupation santé, beauté, est plus forte dans les classes élevées. Je relisais là il y a pas longtemps la distinction de Pierre Bourdieu, et Pierre Bourdieu proposait une explication que je trouve intéressante, ou en tout cas à réfléchir. Il disait que les classes populaires se font plaisir en mangeant et aiment bien manger, beaucoup manger, prendre le plaisir immédiatement. Parce que peut-être justement on prend ce qu'on a au moment où on l'a, alors que les classes supérieures vont se projeter dans l'avenir, vont faire des plans, et sont dans une rationalisation, et peut-être ont plus à perdre et plus peur de la mort.
D'accord. Ensuite tu as écouté les étudiantes de l'ESC, elles ont donné les conclusions qu'elles ont recueillies auprès des consommateurs. Cette fameuse question de l'information, on va dire, qui est récurrente depuis 10 ans. Donc il y a eu la traçabilité, les étiquettes, on se bat là-dessus dans les assos de consommateurs, mais on ne sait pas en fait quoi étiqueter, comment étiqueter. Aux États-Unis, il y a des petits carrés vert, rouge, orange. Donc on voit bien que c'est une question extrêmement complexe, et Donc, d'un point de vue anthropologique et peut-être du marketing, toi, quel est ton avis là-dessus sur la question ? Parce qu'on...
Bon, c'est pas simple, je pense que ça le sera de moins en moins, puisque on a vu, je vois que Anka aussi le dit, hein, qu'une des sources d'information c'est Internet. Donc, c'est plutôt effrayant parce que sur Internet il y a tout et n'importe quoi. Et je pense que là vraiment, enfin, l'idée qu'avançaient les étudiantes d'essayer de mettre en place un site officiel, un site vraiment contrôlé, ça pourrait être de nature à garantir une information pas trop fantaisiste.
Encore faut-il aller la chercher à cet endroit-là.
Encore faut-il aller la chercher, encore faut-il informer les consommateurs déjà de l'existence de sites contrôlés et de logos de contrôle, puisque ça existe. Hein. Mais bon, les gens ne sont pas tous au courant.
Franchement, moi, j'y crois assez peu. Il y a des guides. On va faire une émission prochainement là-dessus avec Valérie. Sur, on a l'impression que le consommateur est tellement paumé qu'il y a des guides qui sortent à tire-larigot. Tu as un guide des produits de saison qui est sorti. Il y a le guide des labels, les labels responsables. Je veux dire, on va être entouré de guides. On va faire nos courses avec des guides, des... Je me dis...
Ah mais non, mais c'est effrayant, parce que j'ai l'impression que les gens ne savent plus où se tourner pour l'information, et du coup, effectivement, ils font simple.
Donc toi, tu penses qu'un site bien référencé, bien encadré...
Ça serait déjà pas mal.
Et du côté de l'étiquetage
Du côté de l'étiquetage aussi, de le réglementer un petit peu plus, mais ça, c'est fait, ça y est. Enfin, maintenant, il faut le mettre en application. Mais... normalement, maintenant, on ne peut plus dire n'importe quoi sur des étiquettes.
Bon, alors, pour parler du n'importe quoi, on va prendre l'autre casquette qui est celle de prof de marketing. Oui. Donc, on passe de l'info à la pub en passant par le marketing. Est-ce que tu n'as pas l'impression là qu'il y a besoin quand même d'un marketing un peu plus responsable et éthique? Oui. Est-ce qu'il y a une réflexion des professionnels? Parce qu'on voit bien que notamment les personnes les plus fragiles qui ont des maladies, par exemple... très grave, hein, et qui voient bien que l'allopathie ne peut plus faire grand-chose pour eux, se tournent vers ce genre de produits. Certains dépensent, je ne sais pas, 500 000, 1 500 euros dans ces produits. Le marketing surfe aussi là-dessus, donc il y aurait peut-être besoin d'un marketing un peu plus responsable.
Ah oui, non, ça, clairement. Et bon, bah, on a bien vu que la preuve est faite que le marketing n'a pas été toujours responsable, qu'il y a eu des allégations absolument fantaisistes, qu'il y a eu des abus. Et malheureusement, là aussi, j'ai bien peur que l'autocontrôle des entreprises ne suffise pas et que ce soit vraiment par la loi qu'il faille faire quelque chose. C'est ce qui est en train de se mettre en place et ça me paraît beaucoup mieux comme ça, parce que si on compte sur la responsabilité, bon, il y en a qui sont responsables et qui sont honnêtes et qui font leur travail le mieux possible, mais il y aura toujours des margoulins. Et malheureusement, comme on n'est pas capable de discriminer entre les gens sérieux et les mauvais, non, il vaut mieux que la loi réglemente tout ça. Mais encore une fois, on a le problème qu'ont évoqué les jeunes filles, c'est que si on bloque tout, si on bloque trop, on risque de se retrouver avec des approvisionnements sauvages. Par Internet, vous pouvez aller acheter à l'autre bout du monde. Et les gens vraiment désespérés, c'est triste, mais ils sont prêts à faire n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Et quand elle parle d'embrigadement, j'ai lu en détail les entretiens qu'elles avaient faits. Il y a des fois où on se demande même si c'est pas de l'ordre du sectaire, de l'ordre de la secte. Il y a des gens qui développent une argumentation sur certains produits. C'est terrible parce qu'il n'y a aucune preuve. Et par contre, avec des gens vraiment désespérés, on peut leur faire avaler n'importe quoi. Voilà.
Donc on reviendra sur cette question de toute façon de la réglementation et des contrôles au cours de la dernière table ronde avec Guillaume Cousin, qui est bloqué dans les embouteillages à Toulouse après avoir passé 5 heures à Orly.